Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Les Gaulois, vérités et légendes » de Jean-Louis Bruno est un essai d'histoire et d'archéologie publié chez Perrin en 2018. L'ouvrage cherche à réviser en profondeur l'image populaire des Gaulois en s'appuyant sur les acquis des recherches archéologiques, philologiques et historiques les plus récentes. Son parti pris est clair, répondre à des questions concrètes pour distinguer ce qui relève des mythes scolaires, des reconstructions nationales ou des stéréotypes romains, et ce que l'on peut établir avec plus de solidité sur les sociétés de la Gaule avant la conquête. Le livre adopte une forme accessible de questions-réponses, ce qui permet de traiter aussi bien l'identité des Gaulois que leur mode de vie, leurs croyances, leur économie, leur rapport avec les Grecs et les Romains, ou encore des sujets emblématiques comme les Druides, Alésia et Vercingétorix. Il s'adressait ainsi à un lectorat large, curieux de comprendre une civilisation longtemps simplifiée. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, défaire l'image scolaire des Gaulois. Pour revenir aux sources, l'un des apports majeurs du livre est de montrer à quel point l'image commune des Gaulois a été construite par des récits tardifs, des usages politiques et des clichés persistants. Jean-Louis Bruno ne se contente pas de corriger quelques erreurs isolées, il remonte à la fabrication même des représentations, depuis les auteurs antiques jusqu'aux interprétations modernes. Cette démarche est importante, car elle explique pourquoi certaines idées restent si tenaces, par exemple l'idée de barbares grossiers, isolés et mal intégrés au monde antique. Le livre rappelle au contraire que les Gaulois doivent être étudiés à partir de documents matériels et de témoignages croisés, et non à travers une seule tradition narrative. En procédant question par question, l'auteur oblige le lecteur à distinguer les faits établis des reconstructions commodes. Ce déplacement méthodologique donne au livre sa force critique, il n'oppose pas seulement une autre opinion à une idée reçue, il montre comment se forme une illusion historique et comment l'archéologie permet de la déconstruire. Deuxièmement, clarifier la distinction entre Celtes et Gaulois. Le livre revient avec insistance sur une confusion centrale, celle qui mêle Celtes et Gaulois comme s'il s'agissait d'un seul ensemble homogène. Bruno montre que ces termes ne recouvrent pas exactement la même réalité et qu'ils ont été utilisés différemment selon les époques, les auteurs et les contextes politiques. Cette clarification est décisive, parce qu'elle évite de projeter sur l'Antiquité des catégories trop simples, souvent héritées de lectures nationales ou idéologiques. L'enjeu n'est pas seulement terminologique. Il touche à la manière de penser l'identité des populations de la Gaule, leur diversité et leur relation avec les mondes voisins. Le livre insiste sur l'idée que la Gaule n'était pas un bloc uniforme, mais un espace de populations variées, liées par des pratiques, des échanges et des structures culturelles communes. En cela, la distinction entre Celtes et Gaulois sert à mieux comprendre la complexité d'un monde ancien, qui ne se laisse pas réduire à une identité unique, figée et pure. Le lecteur ressort avec des repères plus précis et moins anachroniques. Troisièmement, montrer une société gauloise diverse, productive et insérée dans des échanges. Bruno accorde une grande place à la vie matérielle et économique des Gaulois afin de casser le vieux stéréotype d'un peuple uniquement guerrier. L'ouvrage met en avant une société où coexistent plusieurs formes d'activités pastoralisme, agriculture céréalière, artisanat, commerce, travail du métal, circulation de richesses et mercenariat. Cette diversité est essentielle, car elle révèle un monde économique plus dynamique qu'on ne le dit souvent. Les Gaulois ne vivent pas en marge des grands échanges antiques. Ils participent à des réseaux qui les relient aux Grecs, aux Romains et à d'autres peuples. L'auteur insiste aussi sur les implantations, les fermes, les villages fortifiés, les tombes et les sanctuaires mis au jour par l'archéologie récente, qui donne une image concrète de cette organisation sociale. Le livre permet ainsi de comprendre la Gaule comme un espace structuré, capable d'innovation et d'adaptation. Cette approche est particulièrement utile pour corriger la vision d'une économie primitive. Elle montre plutôt une société complexe, insérée dans son environnement méditerranéen et continental, avec des formes de spécialisation et de circulation bien réelles. Quatrièmement, réévaluer le rôle des druides, des femmes et des formes d'organisation politique. Un autre intérêt du livre est de réexaminer les figures et institutions qui structurent la société gauloise, en particulier les druides, les femmes et les cadres politiques. Bruno présente les druides comme bien plus que de simples prêtres. Ils apparaissent comme des détenteurs de savoir, des médiateurs politiques et des hommes de connaissance, associés à l'astronomie, aux mathématiques, à l'éducation et aux arts. Cette vision élargie change la compréhension de leur place dans la société. Le livre s'attache également à des questions souvent négligées, comme la participation des femmes ou leur rôle social, afin de sortir d'une vision uniquement masculine et guerrière des Gaulois. Enfin, les questions posées sur les fédérations, les élites et les formes d'autorité montrent que la Gaule ne se réduit pas à une mosaïque de tribus désorganisées. l'auteur invite à envisager des structures de pouvoir plus élaborées, capables de coordination et de stratégie. Cette partie du livre est précieuse car elle relie croyances, savoirs et organisations sociales au lieu de les traiter séparément. Elle donne une image plus nuancée d'une civilisation où religion, politique et culture étaient étroitement liées. En dernier lieu, relire les épisodes célèbres de la conquête sans céder à la légende, le livre aborde plusieurs thèmes devenus emblématiques comme Alésia, Vercingétorix, la conquête de César ou les récits de guerre, mais il les traite avec prudence critique. L'objectif n'est pas de remplacer une légende par une autre, mais de remettre ces épisodes dans leur contexte historique réel. Bruno montre que la tradition romaine a fortement influencé la manière dont on raconte la conquête de la Gaule et que César a aussi contribué à fixer une lecture très orientée des événements. En réexaminant les sources, l'auteur souligne le rôle de la diplomatie, des alliances et des rapports de force, au-delà de la seule bataille. De la même manière, le site d'Alésia ou la figure de Vercingétorix sont replacés dans une histoire plus large, moins héroïsée, mais plus plausible. Cette méthode vaut aussi pour les autres motifs célèbres, comme les Gaulois nus au combat, les moustaches ou les représentations physiques. Chaque fois, l'auteur distingue l'anecdote spectaculaire du fait historique solide. Le résultat est une lecture plus exigeante, mais aussi plus fidèle à la réalité antique. En conclusion, ce livre s'adresse à tous ceux qui veulent dépasser les images figées des Gaulois, qu'ils soient lecteurs curieux, étudiants, enseignants, amateurs d'archéologie ou passionnés d'histoire ancienne. Il est particulièrement utile à celles et ceux qui cherchent une synthèse fiable sur la civilisation gauloise sans devoir naviguer entre des ouvrages trop spécialisés ou des vulgarisations trop simplificatrices. Son principal intérêt réside dans sa méthode, plutôt que de raconter les Gaulois de façon linéaire. Bruno organise sa démonstration autour de questions précises, ce qui permet de traiter directement les points de confusion les plus fréquents. Le livre se distingue aussi par son ancrage dans les découvertes archéologiques récentes et par sa volonté de corriger les héritages scolaires et idéologiques qui ont longtemps déformé le sujet. Par rapport à d'autres essais sur les Gaulois, il est moins centré sur le récit national que sur la clarification historique. Il offre donc non seulement des connaissances, mais aussi une manière plus rigoureuse de penser l'Antiquité gauloise, en séparant clairement les légendes désvéritées établies. Si vous souhaitez soutenir Jean-Louis Bruno, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt!